Tu penses, toi, qu'il y a un problème dans l'athlétisme français ?
Championne du monde !
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! En août dernier, avaient lieu les championnats du monde d'athlétisme à Budapest, dont les Français sont revenus avec une seule médaille. Parmi les jeunes athlètes dont on attendait beaucoup, se trouvait Hilarik Pacha, sauteuse en longueur, qui a explosé son record personnel cette année. Dans cet épisode, Hilary revient pour nous sur son parcours sinueux avec l'athlétisme, du syndrome de l'imposteur dans le monde du sport de haut niveau, à sa très grosse blessure au genou, qui l'a écartée des stades pendant 2 ans, puis de son retour à la compétition, tout en devant affronter le décès de son entraîneur de toujours. Une relation entraîneur-athlète fondatrice pour elle, dans un sport où l'autorité du coach peut parfois être synonyme d'emprise et qu'elle nous détaille sans détour. C'est également un épisode d'une transparence et d'une lucidité totale sur l'état de l'athlétisme français aujourd'hui, tout en appelant à la bienveillance et au soutien. Si vous ne connaissez pas Hilary, sachez qu'elle brille de mille feux. De par son naturel à toute épreuve, sa sensibilité exacerbée et sa volonté de profiter pleinement du moment présent. Mais c'est aussi une athlète brillante qui s'ignore toujours un peu et qui souhaite juste que le monde du sport soit plus juste. Salut Hilary.
Salut.
Ah ça, c'était vraiment le démarrage le meilleur, je crois. Le non-démarrage le meilleur. Et on va pas la refaire parce qu'elle est vraiment, il est vraiment parfait. Donc, je suis désolée Hilary, ce sera le début de ton podcast.
Comment ça va? Pas de problème.
Comment ça va?
Écoute, ça va très bien.
Encore un petit peu endormi?
Ouais, un petit peu. Un peu dans ma tête, peut-être.
Tu viens de Toulouse à Paris, du coup, le trajet était long, donc le bonjour du démarrage a été un peu long.
Un petit temps d'arrêt, ouais. Il fallait que ça monte au cerveau, sans doute.
Hilary, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. On a eu l'occasion de se croiser par le passé à quelques occasions et de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Je suis super ravie. Donc écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bah, c'est moi qui te remercie. Et c'est vrai qu'on avait eu déjà l'occasion de se rencontrer grâce à Adidas.
Tout à fait.
Donc, ouais.
On drop le name. Hop.
C'est ça. Petite dédicace.
Hilary, du coup, écoute, on est ensemble aujourd'hui. Tu es sauteuse en longueur. Tu fais de l'athlétisme depuis un certain temps.
Ouais.
Déjà, moi, j'aimerais bien, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on reparle aussi forcément aussi un petit peu des mondiaux qui sont déroulés en août et qu'on parle aussi un peu de ton parcours qui est assez, je vais pas dire atypique, mais en tout cas qui est vraiment particulier. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené ou qui t'a amené au saut en longueur, qui n'est pas forcément une des épreuves reines, on va dire, de l'athlétisme.
Alors du coup, ouais, c'est vrai que moi, j'ai commencé l'athlétisme grâce à mon prof de PS du collège, qui s'appelait Jean-Luc Sénat. Alors, comment c'est arrivé tout simplement à la spécialité du saut en longueur? En fait, moi, j'ai commencé en faisant des épreuves combinées. Donc, j'ai touché un peu à tout. Et quand on fait des épreuves combinées, on a tendance souvent à être sélectionné à toutes les disciplines un peu. Et arrivé au championnat de France, mon coach, il me demandait de choisir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je choisissais le saut en longueur parce que c'était là où j'étais
la meilleure.
C'était là où j'étais la meilleure. Et ça associait, on va dire, un peu toutes mes qualités, à savoir de la vitesse, du placement et de l'impulsion.
Okay.
Donc, ouais, c'était un bon combo pour moi, je trouve.
Cette discipline, au-delà d'être celle dans laquelle tu performais le plus, tu avais un attrait particulier pour la discipline? Il y avait quelque chose qui te plaisait particulièrement?
Oui, je pense que j'aimais bien tout simplement l'association de la vitesse et de l'impulsion. Vraiment trouver, enfin aller à fond et pouvoir impulser, c'était quelque chose que je trouvais fun, notamment parce que j'ai quand même de la détente. Ouais. Donc c'est vrai que ça, j'aimais bien.
Et comment ça s'est passé la suite? C'est-à-dire que tu as choisi à un moment donné, on t'a dit arrête de faire tout, concentre-toi sur une épreuve ou une discipline?
En fait, non, j'ai fini un peu par dire à mon prof DPS que j'en avais un peu marre de faire du 800 mètres.
La discipline à la fin cauchemar.
Vraiment, c'était vraiment un enfer pour moi. Et j'avais vraiment pas les aptitudes, je pense. Mais ouais, j'en avais un petit peu marre de faire des épreuves combinées. Et en fait, je voyais plus forcément trop le goût. J'avais plus vraiment le goût et l'envie. Donc, c'est vrai que j'avais toujours cette spécialité-là que je choisissais au moment des championnats de France. Et ouais, ça s'est fait tout naturellement. Et surtout, quand on a vu que j'arrivais à être championne de France ou à être sur les podiums, il m'a laissé tout simplement choisir ma spécialité.
T'as performé assez vite dans cette discipline-là. Effectivement, tu le disais, t'avais des aptitudes. Mmh. T'as été championne d'Europe Espoir en 2019. Comment ça se passe dans ces moments-là quand on place beaucoup d'espoir en toi? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde a dit « Ah, c'est la nouvelle pépite de l'athlétisme. Hilary qui va pouvoir rivaliser avec le gratin mondial. » C'est vrai que je crois que ça fait quelques années aussi que dans l'athlétisme français, on attend un peu des stars. Y a Kevin Mayer qui est là et un peu en figure de proue depuis longtemps. Forcément. Et je pense qu'on a aussi envie de nouvelles têtes. Et c'est ce qui a été un peu impulsé sur toi il y a quelques années. Comment tu l'as vécu à ce moment-là?
En vrai, j'avais un peu de mal parce que je ne comprenais pas pourquoi toute cette lumière d'un coup, je pense. Et puis, en fait, je me trouvais jeune, donc je voulais pas prendre la pression des autres. Donc, en fait, ce qui était important pour moi, c'était de revenir un peu à mon entourage et rester focus en fait sur moi. Mais je vais pas mentir qu'il y avait quand même, j'étais quand même troublée quoi. Enfin, je me disais bon, on attend de moi que je sois ça, et il y avait quand même une lutte interne.
Ça a été rapidement problématique?
Oui, ça a été. C'est pas que ça a été problématique, mais c'est que je pense que j'arrivais à faire des bonnes performances sans avoir un entraînement de haut niveau. Et en fait, on me demandait d'être une athlète de haut niveau, mais je sentais bien que en fait, j'arrivais à performer parce que j'arrivais à me transcender. Mais du coup, je n'avais pas forcément le physique et l'entraînement pour. Et c'est pour ça qu'en fait, j'étais, je pense, irrégulière. Parce que je m'entraînais, mais je ne m'entraînais pas suffisamment pour être régulière. Mmh. Et dès que j'arrivais à faire des performances, c'était parce que c'était un instant T que j'avais... prévu que c'était mon objectif et du coup là j'arrivais à me transcender, mais ça me demandait une énergie si forte que qu'après en fait ça faisait un gros down ouais, tout simplement. Et du coup c'est là que c'était difficile d'entendre toute cette exigence, parce que moi je sentais bien que physiquement en fait je pouvais pas faire plus quoi.
Mais ça te parce que tu ne le souhaitais pas?
En fait, c'est pas que je ne le souhaitais pas, mais c'est que sur le moment et surtout avec ma maturité de l'époque, c'était pas la priorité en fait d'être ultra performante en fait. Moi, je voulais surtout me faire des souvenirs et m'amuser et pouvoir m'exprimer à un instant T. C'était un peu... Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. C'est-à-dire que sur le moment, je voulais forcément performer, mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, plus tard, grâce à ma blessure aussi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il me fallait beaucoup plus d'entraînement pour pouvoir être régulière. Et effectivement, cette énergie que j'avais à me transcender le jour J, elle est super intéressante et c'est vraiment une qualité. Mais c'est pas avec ça que je dois sauter à chaque compétition, parce que sinon ça m'épuise.
En fait, le sport de haut niveau, ça n'a jamais été vraiment un objectif pour toi ?
Non, ça n'a jamais vraiment été un objectif. En fait, on m'a dit que j'avais des qualités et moi, tout ce que je voulais, c'est ne pas regretter, en fait. Donc, je me lançais dedans sans trop me prendre la tête et ouais, juste en voulant kiffer le moment et me faire les meilleurs souvenirs.
Est-ce que c'est presque plus tes entraîneurs, ton entraîneur qui ont fait que tu es resté dans ce sport-là ? Toi, t'en serais sortie spontanément comme ça, vu que t'étais pas forcément dans une optique de performance et de haut niveau ?
Non, je pense pas que je serais sortie parce que j'ai fini par vraiment m'amuser et surtout par prendre confiance en moi. Mais je pense qu'au début, quand même, il fallait aller me chercher, quoi. Et en vrai, ouais, il y avait vraiment cette notion de confiance en moi. À l'époque, j'avais quand même mon ancien coach Jean-Luc qui était tellement passionné que du coup, bah, en fait, je me sentais même mal pour lui d'arrêter, en fait. Mais en vrai, je prenais quand même beaucoup de plaisir. Ça me permettait beaucoup de m'exprimer. Et en fait, ouais, c'est ça qui est sympa, c'est que je me suis rendu compte que c'était vraiment un mode d'expression et je ne l'ai pas découvert seule. En fait, on m'y a amené.
Du coup, ce que tu dis aussi, c'est que finalement, on a le sentiment que tu ne veux pas qu'on te détermine que par le sport.
C'est exactement ça. En fait, je pense que je suis sportive, j'ai mes qualités, mais en fait, je suis pas que ça. Et avant tout, en fait, je suis juste une personne qui essaye de construire un projet juste pour kiffer et donner le meilleur d'elle-même, en fait, à un instant T ou pendant une période et faire le plus de souvenirs possible. En fait, c'est très simple ce que je recherche dans l'athlétisme et je veux pas me tromper. D'objectifs et d'ambition. Genre, mon ambition, c'est de m'épanouir et de me faire kiffer. Le jour où j'en ai marre, j'arrête.
C'est assez particulier parce que c'est pas forcément le type de discours qu'on entend dans le sport de haut niveau. On entend plutôt oui. L'inverse.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que après, c'est ma vision des choses et on est tous différents. Mais ouais, pour moi, en fait, la performance, ça vient parce qu'on s'amuse et parce qu'on est aligné un peu avec soi-même. Et je pense que c'est cette quête que je recherche grâce à l'athlétisme.
Du coup, comment ça se passe ? Parce que pour revenir sur ton parcours, donc effectivement, tu as eu des résultats plutôt jeunes. Mmh. On a placé beaucoup d'espoir en toi, même si toi, tu dis que finalement, toi, tu t'en foutais un peu.
C'est quand même... Je pense que ça, c'était fatigant un peu même pour la Fédé parce qu'ils se disaient, elle a du potentiel, elle pourrait faire ça. Mais sur le moment, en fait, je l'intégrais pas à l'information. Ça me passait un peu dessus, quoi. Enfin, c'était pas mon... En fait, c'est un peu comme si moi, j'avais pas encore déterminé ce que j'allais chercher dans l'athlétisme et qu'on essayait de m'imposer quelque chose qui ne va pas du tout avec moi. Et j'avais pertinemment conscience que ça n'allait pas du tout avec ma personnalité, en fait.
Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné ? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ? Est-ce que c'est justement au moment de ton accident, parce que tu as eu un accident très grave en 2021, où tu glisses sur la planche. Il pleuvait, je crois que la planche n'était pas forcément séchée.
Ouais, c'est
et
ça.
Tu te fais très très mal au genou.
Ouais. Oui, je pense que ça bah, forcément... Ça a été vraiment un déclic parce que je me mettais quand même la pression et je ne m'en rendais pas forcément compte. En fait, c'est là que ça a été un peu... En fait, les gens préfèrent se dire que voilà, elle n'a pas eu de la chance, Hilary. Elle a glissé sur une planche et il lui est arrivé une fatalité. Pour moi, le hasard, ça n'existe pas vraiment. Derrière chaque blessure, aussi anodine qu'elle puisse être, il y a quand même une leçon à en tirer. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu ma blessure au-delà du fait juste de l'accident. Et j'ai pris le temps de me poser et de réfléchir à ce que je voulais faire dans l'athlétisme, qu'est-ce qui était important pour moi, à me recentrer un peu sur déjà mes objectifs et mes motivations. Je pense qu'aussi, j'avais besoin... Ça m'a fait du bien, en fait, d'être peut-être un peu plus dans l'ombre. Pour pas avoir en fait tout le temps un discours sur mes épaules et pouvoir un peu me retrouver face à moi-même et un peu avoir bah, juste mes idées et être plus claire, avoir mes questionnements et essayer d'y répondre seule plutôt que d'avoir plein d'interactions avec beaucoup de monde qui me donnent tous en fait leurs projections en fait. Voilà, je pense que cette blessure, ouais, elle a été là et elle a permis d'avoir un déclic.
Tu t'es rendu compte de quoi à ce moment-là ? Parce qu'effectivement, quand on écoute ton discours, on se dit ça aurait pu aussi être le moment où tu dis bon bah c'est la fatalité, je me blesse, c'est que c'est la fin, c'est que je dois arrêter là.
C'est vrai que j'aurais pu le voir comme ça, mais ça fait, c'est pas trop mon caractère. J'aime bien quand même le challenge, j'avoue. Mais non, j'ai pas du tout vu la fatalité, j'ai pas vu. Mais c'est une question de ressenti, quoi. C'est-à-dire que le jour où je me suis blessée, j'étais déjà dans une optique de revenir. Je me suis pas du tout dit que c'était la fin ou quoi. En fait, penser à de la fatalité, je l'ai eu un peu après. Mais sur le moment, le premier sentiment que j'ai eu, c'était de revenir et de prendre ce temps-là pour moi.
Tu as eu l'impression que tu avais besoin de ça pour te rendre compte de l'amour que tu avais pour ton sport ?
Je pense que j'avais besoin de ça, ouais, pour me rendre compte de l'amour que j'avais pour mon sport. Et puis même, aussi... pour peut-être un peu plus développer l'amour que j'ai pour mon corps.
Ouais.
Et créer réellement un lien, parce que, en fait, moi, j'étais très, très mentale, en fait. Pour moi, le corps, en fait, il doit juste suivre, et puis il n'a pas son mot à dire. Et à travers ça, il y a quand même une dissociation. En fait, j'ai pris le temps aussi de travailler avec des spécialistes, et notamment une kinésiologue qui m'avait vraiment donné une image un peu claire de comment fonctionne un peu mon corps. Et elle me disait, c'est comme si ta tête, c'est le gouvernement et ton corps, c'est les citoyens. Bah, toi, t'es dans un régime tyrannique. Donc... voilà, c'est clair. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment me rendre compte qu'en fait, bah ouais, en fait, même si j'ai un mental qui me permet de franchir les étapes et d'avancer, en fait, il y a certains signaux qui doivent être écoutés. Et quand on a une grosse blessure, il faut quand même se questionner et réfléchir un petit peu aux tenants et aux aboutissants, quoi.
Ouais, tu penses que finalement ta blessure, c'était le message.
Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je préfère le voir. D'autres personnes verront d'autres choses en fonction de leurs croyances. Mais voilà, moi, pour moi, rien n'arrive par hasard. Et à travers chaque événement qui puisse arriver dans ta vie, bah, il y a une leçon à tirer. Moi, pour moi, c'était en lien avec mon corps.
Donc tu te blesses en mai 2021, je crois, en Pologne, sur une compétition. Il arrive un autre événement tragique en fin d'année 2021, qui est le décès de ton entraîneur, Jean-Luc Sénat, qui était ton...
Alors oui, Jean-Luc Sénat, il est décédé en octobre 2022. En fait.
Ah, 2022, pardon, excuse-moi. Ouais. T'étais en train de revenir aussi à ce moment-là. T'étais sur, on va dire, la fin de ta blessure.
C'est ça.
Comment ça se passe, cet événement-là ? Comment tu le vis, toi ?
Alors du coup, bah, Jean-Luc, il avait un cancer. Un cancer qu'on connaissait déjà depuis 2016. Donc, comment dire ? En fait, on a travaillé, on a performé en fait, avec la maladie. Quand j'ai fait championne d'Europe, il était malade, je le savais. Et quand je me suis blessée, on était tous les deux dans une situation quand même assez critique, forcément. Et en fait, on a essayé de s'apporter un peu de réconfort chacun, en fait. Et reprendre la compétition sans lui et en lui disant au revoir. C'était forcément pas facile. Puis même, il y a cette confrontation à la mort et à la mort d'une personne qui a toujours été dans son entourage, que je voyais tous les jours. Donc non, pas facile, pas facile. Mais moi, je vois les choses comme un process, en fait. Il est parti à ce moment-là. C'était le moment aussi pour moi de me recentrer et de mettre en place en fait les choses les choses sur lesquelles j'ai réfléchi en fait pendant la période de convalescence en fait. Donc il est parti et c'est comme si ça relançait un processus en fait de OK, là maintenant il va falloir se refocus sur l'objectif Paris 2024.
Comment on fait quand je crois que ça a été ton premier entraîneur pendant quasiment 10 ans, 9 ans je crois à peu
c'est
près.
Ça.
C'est lui qui a cru en toi aussi au début. T'expliquais que finalement, c'est lui qui t'avait détecté.
Ouais.
Qui a vu que t'avais des capacités, qui t'a fait prendre confiance en toi. comment on fait quand cette personne-là qui a été une sorte de moteur pendant toutes ces années d'un point de vue sportif et même personnel, j'imagine, s'en va?
En vrai, c'est franchement pas facile. Hein. C'est beaucoup de questionnements sur son identité, sur qui on est et sur sa confiance en soi. Mais ce que moi j'avais en tête, je pense, c'est que qu'il faisait partie de moi. Parce que, en fait, je me suis rendu compte de sa bienveillance, de à quel point il m'a fait adorer le sport que je pratique et avoir de l'amour pour ce sport-là, mais d'une manière totalement bienveillante, sans me l'imposer et tout le temps en s'adaptant en fait à ma personnalité. Donc en fait, il a fait un travail sur me d'orfèvre, je dirais, de pédagogie. En fait, il m'a inculqué, il m'a éduqué et je pense que de me dire qu'en fait, quelque part, je suis la personne que je suis actuellement grâce à lui et que son enseignement fait partie de moi actuellement. Ça me fait me dire qu'en fait, je suis totalement légitime en fait à continuer ce sport et à donner le meilleur, d'autant plus qu'il n'est plus là et que y aurait rien de plus beau pour moi que d'aller le plus loin possible et de lui rendre hommage.
Est-ce que maintenant ça te sert de moteur aussi ?
Ah, totalement. C'est en fait ce qui m'a inculqué, c'est une vision des choses. C'est beaucoup d'acceptation de qui on est, parce que voilà, la société nous pousse à se comporter de certaines manières, d'être sportif de haut niveau et avec tout ce qu'il y a comme stéréotype derrière. Et en fait, c'est tellement lourd à porter. Et je trouve que forcément, quand on se vit pleinement et qu'on accepte pleinement qui on est, en fait, tout s'aligne et on n'est plus dans la lutte de devoir prouver à qui que ce soit. Donc, en fait, moi, c'est ce qui m'a beaucoup appris, parce que lui, il avait son caractère. Tout le monde le trouvait bizarre, etc. Mais en fait, c'est la personne qui était le plus alignée avec lui-même. Et en fait, il était tellement bienveillant avec qui il était que je trouve que sa bienveillance, en fait, elle émanait avec les personnes avec qui il était. Et ça, c'est une grosse leçon que j'ai pu ensuite mettre en place en fait dans mon projet sportif. Et c'est pour ça que le choix de mon nouveau coach et des gens qui m'entourent, ça a été une clé, quoi.
Comment ça s'est passé, ce choix-là ?
Alors, il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment énormément confiance en mon instinct. Moi, j'avais rencontré un rugbyman qui s'appelle Yannick Nyanga, grâce à Adidas d'ailleurs. Et il m'avait conseillé de parler avec mon préparateur physique actuel qui s'appelle Zeba Traoré. Jean-Luc a eu l'occasion de rencontrer Zeba. Donc, en fait, petit à petit, les choses se sont créées au fur et à mesure parce que déjà 2 ans avant, on voulait travailler avec Zeba. Il connaissait déjà mon coach Pierrick, ils se voyaient sur les pistes, etc. Donc, moi, j'ai pu parler déjà des différents entraîneurs avec qui moi je voulais travailler. Il a eu le temps de me donner son avis. Donc, c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante, en fait, de qu'il soit parti comme il est parti, parce qu'en fait on a pu mettre en place les choses, ça n'a pas été une mort subite, oui. Et en fait il a participé aussi au choix des personnes qui m'ont entouré et qui m'entourent actuellement.
Oui, ça a été un prolongement finalement, comme une sorte de passation.
Ouais, c'est en fait il m'a juste donné son aval un peu juste en me disant oui, lui j'aime bien. Non, il a une bonne vision des choses, etc. On discute, quoi. Et petit à petit, les choses se font. On parle du projet aux gens. Ils y adhèrent, ils n'y adhèrent pas. Les choses se construisent petit à petit.
Est-ce que ton projet sportif, maintenant, il est différent ?
Ah oui, non. Vraiment, en fait, le projet en soi et les valeurs que j'ai, enfin, pas les valeurs, mais les objectifs que j'ai de me faire des souvenirs, et en profiter avec les gens qui m'entourent, c'est devenu presque un ciment. Enfin, c'est-à-dire, c'est devenu ma base solide, mon socle. Mais on y a mis une touche de haut niveau, forcément, parce qu'on veut devenir, on veut être régulier dans la performance. Et en fait, tout le travail là, maintenant, pour moi, dans mon projet sportif, c'est continuer à me faire plaisir, continuer à profiter avec les gens de mon entourage, mais y ajouter de la pérennité, et je dirais de la pérennité dans de l'intensité. Mmh. Et pour ça, ça demande un alignement, quoi. Ça demande à chaque fois de se reposer la question si ce qu'on a autour de nous, ça nous convient ou non, et si ça ne nous convient pas, rééquilibrer. Donc, ouais, le projet, il a totalement changé parce qu'en fait, on y a rajouté des valeurs qui sont hyper importantes juste pour me protéger et pour faire en sorte que quand je finisse, en fait, ma carrière sportive, je n'ai pas de regrets, quoi.
Ça y est, maintenant, tu te considères comme une athlète de haut niveau ?
Ouais, franchement, je pense que maintenant, je me considère comme une athlète de haut niveau parce que j'ai vu que j'étais capable d'avoir de la régularité, parce que j'ai vu que le travail paye aussi et parce que j'ai trop souffert aussi. Là. Pendant ces 2 années, j'ai trop souffert. Même cette année, les entraînements, c'était dur. Non, franchement, en fait, je pense que je me considère plus comme une athlète de haut niveau parce que maintenant, j'ai une maturité qui fait que j'accepte plus facilement les choses et que je me réajuste.
Ouais, ça, c'est fou de se dire que finalement, il faut passer par des moments terriblement dur pour voir ces évolutions là
ça,
aussi.
Ça, c'est propre à moi. Je pense qu'il y a d'autres athlètes qui n'ont pas à passer par des phases aussi intenses pour se rendre compte des choses. En fait, on a chacun notre rythme et chacun notre chemin. Mais c'est vrai que chez moi, c'est souvent comme ça. Il faut que je passe par des choses intenses pour vraiment me rendre compte. Mais c'est propre à moi et je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille parce que je n'ai pas cette sensibilité-là de vite me réquestionner sur est-ce que je suis au clair avec tel ou tel élément de ma vie, quoi. Mais bon, maintenant, je le suis un peu plus. c'est ce qu'il faut retenir.
Un peu plus, il y a encore un peu de travail à faire.
Il y a encore un peu de travail, je me suis quand même blessée cet été, donc il y a encore des réajustements.
Je trouve que j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette relation entraîneur avec ton ancien entraîneur et ton nouvel entraîneur. On sent que c'est quelque chose qui est vraiment primordial chez toi, cette notion de confiance, de partnership presque,
ouais, c'est ça,
avec la personne qui t'entraîne. C'est vrai que dans le milieu de l'athlétisme, c'est quelque chose qui est souvent décrié. On a pu entendre il y a eu beaucoup de scandales effectivement sur des abus qui ont pu psychologiques, physiques, bon, et autres qui ont pu avoir lieu et spécifiquement dans le milieu de l'athlétisme. C'est quoi ton point de vue toi là-dessus?
Alors vraiment pour moi en fait, un coach c'est avant tout une personne qui doit accompagner. Ça doit être un accompagnant et ça doit être une personne qui doit savoir bien gérer son ego. Je me méfie énormément de l'ego parce que l'ego, c'est les sentiments, c'est les émotions. Et quand on est avec des athlètes, bah, ou avec n'importe qui d'ailleurs, quand c'est l'ego qui parle, il n'y a plus la bienveillance. Et pour moi...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
La relation avec un coach, c'est vraiment une collaboration. Je comprends quel athlète tu es. Je prends le temps de comprendre quels sont tes besoins, ce sur quoi tu es au clair, ce sur quoi tu n'es pas au clair. Et on trouve une entente, on se réajuste, on communique. Pour moi, Le coach, c'est pas celui qui dit aujourd'hui on fait ça, tu fais ça, point, t'as pas ton mot à dire, c'est comme ça l'entraînement, c'est comme ça le haut niveau, tu te tais. Ça pour moi, c'est autant aller à l'armée quoi. En fait, on est tellement sur une activité qui est tellement en lien avec nos corps, nos sensations, nos impressions, qu'à un moment donné, il faut que notre coach soit capable de nous dire « Ok, alors on fait telle chose, parce que moi j'ai remarqué que toi, t'avais telle faiblesse ou non, donc voilà comment on va travailler pour rééquilibrer les choses. » Mais l'athlète doit entendre ça, parce que sinon il ne peut pas se lancer à 100%. Pour moi en tout cas, tu ne peux pas te lancer à 100% si tu ne comprends pas clairement les choses, ou en tout cas où tu vas. On ne demande pas de... que ce soit un expert, etc. On demande juste de comprendre vers où on va pour pouvoir, en fait, s'engager et s'engager pleinement dans ça et ramener les choses à son projet et pas au projet du coach, en fait. Donc, bon, ça, c'est ma vision des choses. Et c'est aussi, comment dire, ouais, ça va aussi avec ma personnalité. Il y a d'autres athlètes qui ont besoin d'autres choses. Mais tout l'enjeu, en fait, c'est de savoir communiquer avec son coach et lui dire, OK, quand je suis comme ça, bah, moi, j'ai besoin de ça ou j'ai pas besoin de ça, quoi. La communication, c'est la clé. Et pour moi, le coach ne doit pas s'approprier le projet de l'athlète, quoi. Enfin...
Tu trouves que c'est quelque chose qui a un peu pollué l'image de l'athlétisme ces dernières années aussi?
Oui, ça pollue, mais au-delà de ça, ça crée un mal-être chez les athlètes parce que, du coup... Ça donne, comment dire, en fait, en se comportant, quand un coach se comporte avec son ego, qui s'approprie la réussite de son athlète, en fait, ça devient de la manipulation, ça devient de l'emprise, et ça laisse place à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, en fait, c'est pour ça que l'athlète doit toujours se recentrer sur ce qu'il a besoin et ce qui fait qu'il est athlète, et qu'il prenne en compte sa personnalité, quoi. Et qui est vraiment un travail de collaboration sur « Ok, je suis au clair sur ça, pas sur ça, etc. »
Est-ce que tu penses aussi qu'il y a peut-être un problème... Enfin, tu le disais tout à l'heure, je reprends tes mots, tu disais que finalement, tu dissociais ton esprit, ton corps, que, que tu dénigrais un peu finalement ton corps. Ça. Est-ce que ça, cet aspect-là du sport de haut niveau, le fait de, des fois, dissocier trop souvent le mental de l'aspect physique, peut entraîner ce genre de choses aussi?
Oui, ça peut aussi entraîner quand on est un peu psychorigide ou on est très perfectionniste. Ça peut très vite arriver et je pense que c'est aussi le rôle du coach en fait de vite en prendre conscience, vite prendre conscience que en fait on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de reconnecter avec notre corps parce qu'en fait les athlètes on est très très cérébral. Je pense que ceux qui arrivent parfaitement, c'est ceux qui ont vraiment ce lien, en fait, et qui sont tout, qui prennent l'entièreté du système, en fait. Mais oui, je pense, ouais.
Depuis que tu es de retour de blessure, là, ça fait, on va dire, un an que tu es de retour à plein potentiel, à ton plus haut niveau et même à plus haut niveau encore. Parce que tu as battu tes records cette année en faisant un saut à 6,86, qui t'a placé d'ailleurs dans les meilleures performances de l'année et qui t'a permis de te qualifier sur les mondiaux. Tu dirais que tu as trouvé justement le juste équilibre maintenant dans tous les éléments de ta vie pour te permettre de performer?
En fait, j'ai trouvé... Non. J'ai trouvé les éléments qui me permettent de performer en compétition. Ça, c'est clair. On a trouvé l'entraînement qu'il me fallait, on a su se réajuster, etc. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il va falloir que... je me réajuste et notamment le fait que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Voilà, cette année j'avais une alternance, j'avais une formation et en plus de ça j'avais tous les entraînements plus les compétitions. Et en fait c'est délimiter aussi les choses. Moi je pensais que je pouvais délimiter, on va dire, de manière hebdomadaire ou journalière. Mais en fait, c'est sur des périodes en fait, qu'il faut mettre son intensité. Donc là, maintenant, ouais, moi, la régulation que j'ai à faire, c'est plus sur mon rythme, mes limites, parce que cette année, je me suis retrouvée à avoir beaucoup de choses à gérer et beaucoup de choses à régérer en même temps.
Ouais.
À savoir, pendant la période de compétition, j'allais en alternance, je continue ma formation. Et il y avait des fois, j'étais en équipe de France et j'étais en train de faire mes cours, quoi. Enfin,
ouais.
En fait, il faut savoir délimiter les choses. Il y a un temps pour tout. Mais ce n'est pas juste un temps dans la journée. Quand on est athlète, c'est aussi en termes de période. C'est ça que j'ai appris. Et en fait, en période de compétition, je ne dois pas avoir de perte d'énergie à droite et à gauche. Ça crée une énergie nerveuse, une charge mentale aussi qui fait que tu peux être le plus en forme possible à un moment donné. Ton corps, il va te dire tu pousses un petit peu trop.
Et là, d'ailleurs, en arrivant aux mondiaux, donc, tu t'es qualifié pour les qualifications. Tu t'es aligné, tu as essayé de faire un premier saut et tu t'es rendu compte que ça ne le faisait pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors, en fait, je m'étais blessée au championnat de France à l'échauffement. Donc, une blessure qui n'est pas du tout agréable. Mais en fait, ce qui était important pour moi, là, c'était de connaître aussi cette situation de stress, en fait, t'es blessé, dans 20 jours, t'as les mondes. Comment on fait pour optimiser les choses? Donc, il y a eu tout un travail d'optimisation de la blessure, la prise en charge, que ce soit médicale, avec tout le monde, quoi. Aussi, le moment, du coup, cette blessure, elle arrive aussi à un moment où, en fait, je ne pouvais plus aller en alternance, tout ça. Donc, j'ai aussi me poser et me dire, ah oui, effectivement, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, ouais, de comprendre comment mon corps fonctionnait dans ce moment-là et voir qu'en fait, je suis encore jeune, donc je me régénère vite. On peut quand même arriver à faire des choses. On maintient un peu, on reste en mouvement sans chercher les douleurs. Et en fait, oui, voilà, quand je suis arrivée au championnat du monde, j'arrivais à sauter. J'arrivais à sauter, pas avec l'intensité que je souhaitais. Et en fait, l'objectif, c'était quand même d'essayer de sauter sans mettre trop d'intensité. La problématique chez moi, c'est que, en fait, tout mon enchaînement de compétition était quand même avec une certaine intensité, mais une intensité que je n'allais pas chercher. C'était mon état de forme, en fait, qui s'exprimait.
Ouais.
Et quand je suis arrivée, du coup, au monde, sur la piste, quand le concours a commencé, en fait, involontairement, j'ai mis l'intensité que j'ai eu l'habitude de mettre en place, en fait. Et ça coince parce que actuellement, j'étais pas capable de mettre cette intensité-là sur la blessure que j'ai eue et j'ai voulu pas aggraver les choses et pas prendre de risques. Il y a les JO de Paris 2024 à préparer. Je sais que quand je me pète, moi, c'est comme il faut. J'y vais pas de main morte. Donc pas de risque inutile. On se reconcentre, on réajuste les choses et on avance.
C'était une des premières fois que tu avais que tu allais dans une compétition avec un tel niveau chez chez les élites, chez les seniors.
Ouais.
Comment tu as vécu ça?
Franchement, c'est c'était frustrant parce que je savais que j'étais un peu blessée et que je pouvais pas m'exprimer pleinement. Mais quelle gratitude, quelle reconnaissance de pouvoir repouvoir m'exprimer, de repouvoir être en lien avec l'équipe de France, de reporter le maillot de l'équipe de France. Enfin, c'était juste, ça m'a fait tellement de bien.
Est-ce que tu as senti aussi ou tu as pu te rendre compte de tout ce que ça impliquait dans le milieu du sport? Et là, je parle par exemple d'un point de vue médiatique. Parce qu'on a pu se rendre compte que c'est une semaine de compétition, il n'y a pas eu de médaille jusqu'au dernier jour, et que médiatiquement aussi, finalement, on attend quelque chose de vous, et quand ça n'arrive pas, ça peut être compliqué à gérer.
Ça peut être compliqué. Alors moi, franchement, j'ai préféré mettre les médias
à distance.
Vraiment à distance. C'est-à-dire que, en fait, je me suis recentrée sur moi-même. C'est vrai qu'il y a l'équipe, mais moi, j'ai préféré me recentrer sur moi-même. Encore une fois, je reviens d'une grosse blessure. J'ai rien à prouver à personne, quoi. Enfin, c'est mon projet à moi. les gens qui veulent critiquer, critiquez comme vous le voulez, mais moi je l'aime tellement mon petit projet. Et je suis, il y a des fois je réussis pas, mais j'essaie tellement de donner le meilleur de moi-même pour réajuster les choses. En fait, c'est un peu qui m'aime me suit, quoi. Donc les médias, c'est compliqué pour nous en ce moment. Soit vous décidez de, bah ouais, de se rendre compte des choses. Il n'y a pas une médaille, il y a un problème, et on essaye de penser positivement et de donner cette force quand même à ces jeunes qui représentent le pays, plutôt que de les descendre, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je pense que moi, j'aurais préféré que, voilà, on mette en avant le fait que, bah, malgré le fait que là, j'arrive sur cette compétition, j'arrive pas à performer comme je veux, bah, en fait, je reviens d'une grosse blessure, et qu'en fait, les médias arrivent à prendre du recul aussi sur les choses et ne soient pas juste là pour critiquer difficilement. En fait, la critique positive, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que je ne connais pas vraiment le sujet, mais une critique positive et pour dire les choses, mais de façon bienveillante, ça serait sympa.
Et tu penses, toi, qu'il y a un problème dans l'athlétisme français ?
Oui, je pense qu'il y a une problématique, bien sûr. Je pense qu'il y a une grosse problématique déjà parce qu'en tant qu'athlète, en fait, on voit comment ça se passe aux États-Unis. On va voir vite comment ça se passe dans les autres pays et la considération qu'on a pour les athlètes. Et on se rend compte que dans notre pays, ce n'est pas la même. Donc déjà il y a ça et il y a ce point de comparaison là, et en fait je pense que chez les athlètes français, en fait, ça engendre de la frustration parce qu'on se dit mais en fait on nous doit quand même un peu de reconnaissance, on doit nous aider, mais en fait culturellement le sport en France c'est pas ce qui galvanise les gens. Donc en fait, en tant qu'athlète, je pense qu'il faut juste se repositionner, se rendre compte du contexte dans lequel on est, le contexte français, pas américain, pas allemand, pas anglais, et se rendre compte de ce qu'on a ici et trouver le moyen de s'en sortir avec dans le contexte où on est, en fait, et pas juste être dans la frustration de ça se passe comme ça ailleurs et c'est pas comme ça ici, parce qu'en fait on perd de l'énergie, en fait, mais c'est vraiment difficile. Et je pense très honnêtement que pour être athlète en France, il faut être auto-entrepreneur.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses du coup que finalement il faut un peu se débrouiller tout seul et trouver en tant qu'athlète ce qui nous correspond et l'entourage qui nous convient le mieux?
Je pense que c'est totalement ça. En fait, c'est un sport individuel. Pour l'instant, le côté équipe, c'est pas encore mis en avant, mais je pense que là, une première chose à faire, c'est que chaque athlète se recentre sur son projet, revoit un petit peu quel est son entourage et fait en sorte que l'entourage soit béton et ensuite essayer de s'élever. Mais enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de problématiques, quoi.
Tu parles de l'équipe, tu dis l'équipe. Finalement, il faut que les athlètes se ressentent sur eux-mêmes. Ce côté collectif en athlétisme, tu trouves qu'il n'est pas existant ?
En fait, on se voit au moment des
rassemblements.
Des rassemblements, mais enfin, on est beaucoup. C'est pas facile, en fait, de créer toute une cohésion. Puis ouais, enfin c'est quand même un sport individuel où on crée tous notre système, donc créer un groupement collectif, c'est plus compliqué, je pense.
Comment toi tu te projettes là sur cette année olympique ?
Bah franchement, j'essaye de me dire que c'est une année comme les autres, avec une grosse compétition, mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête, faut pas faire des choses, enfin faut pas en faire plus ou moins que les années précédentes, en fait faut continuer son travail, sa persévérance.
Et ping.
Ping.
Voilà, ça je me dis toujours à tout le monde. C'est moi la débile qui... Pardon.
Non, mais ben, c'est le podcast. Hein. Ça a tout son charme. Ouais, moi, je pense que j'ai déjà fait... je suis revenue à mon niveau avec une base. On va solidifier les bases. Et on va vraiment rester dans une dynamique de essayer d'anticiper les choses, donc prévention des blessures, prévention des évolutions techniques, mais rester focus sur cet objectif que sont les JO et créer tout une montée un peu en puissance jusqu'ici, mais tout en restant dans le réajustement, dans la réadaptation et voilà.
C'est quoi l'enjeu pour toi à Paris 2024?
Ah, moi, je vais aller le plus loin possible. En fait, non. L'enjeu principal, et je le répète, c'est vraiment de me faire les meilleurs souvenirs dans mon pays, quoi. C'est pouvoir arriver et me dire que je suis suffisamment au clair avec moi-même pour pouvoir utiliser ce que les gens vont me donner autour pour me transcender, en fait. Et aller plus loin, quoi. Enfin, médaille à fond.
J'allais dire même...
Championne olympique. Non, mais vraiment, enfin... Voilà, c'est... Moi, j'ai pas pu m'exprimer à ces championnats du monde. C'est prendre la frustration que j'ai eue pendant ces championnats du monde, parce que ça, je ne l'ai pas dit, hein. Ça a été terrible quand même. Hein.
Ouais.
Ça a été difficile et il a fallu que je digère. Mais c'est prendre cette frustration, la réinjecter au bon endroit, au bon moment, dans le travail, et pouvoir vraiment m'exprimer sur ces Jeux Olympiques qui vont juste être incroyables, quoi.
T'as la sensation de jamais, pour le moment, avoir pu vraiment t'exprimer ?
Ouais. En grande compétition, j'ai l'impression de... Ouais, en compétition senior, en fait, j'ai l'impression de jamais avoir pu vraiment m'exprimer. J'avais fait Doha en 2019, qui était après les championnats d'Europe. Donc, en fait, j'avais pas l'entraînement pour continuer en fait ma saison. J'y suis quand même allée, mais j'ai pas pris plus de plaisir que ça parce que je sentais bien que j'étais pas en forme. Là, je me blesse. Enfin bref, je finis par me dire quand même que va falloir quand même faire en sorte que les choses se fassent, quoi, parce que sinon moi je vais vraiment être frustrée.
Je crois en ton destin.
Je crois en mon destin à fond. Je crois en mon destin à fond parce que je donne le meilleur, vraiment. J'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même, d'être au clair, d'être bienveillant avec moi-même et avec les autres. Ouais, enfin, et après, j'y crois, quoi. Enfin, je me suis entourée de personnes qui croient en mon projet et qui veulent vivre les choses. Après, moi, j'accepterai ce qui arrivera, quoi. Parce qu'en fait, ouais, j'accepterai parce que j'aurais pas à regretter vu que j'aurais tout donné, quoi. Mmh. Voilà.
Est-ce que t'as peur aussi, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais est-ce que t'as peur de l'après-jeu ? Est-ce que t'as peur si, par exemple, vous ne faites pas de médaille, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, au jeu, en athlétisme, que derrière, ce soit très compliqué ?
Alors, moi, étant donné que j'ai fait une prépa olympique un peu particulière parce que grosse blessure... C'est vrai que j'ai en tête Los Angeles 2028. Vraiment. Effectivement, là, tu soulèves quelque chose de très intéressant. Si on ramène pas de médaille, moi, j'ai peur qu'en fait, on finisse par réellement galérer à trouver ensuite des sponsors pour recréer une Olympiade, en fait. C'est ce qui me fait peur, en fait. C'est la foi qu'ont, en fait, les Français sur l'athlétisme. En fait, j'ai peur de la perdre, en fait.
Que les Français et donc les sponsors et finalement tout ce qui vous fait gagner vos vies en fait, hein, en tant qu'athlète, disons les choses, s'arrête.
Ouais, s'arrête et qu'on galère encore plus qu'on ne galère maintenant.
Ouais.
C'est vrai que ça, c'est une réelle frayeur. Mais en tout cas, je pense que au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut là, c'est vraiment être focus sur ce projet-là. Et pas trop réfléchir à ce qui se passera ensuite. Ça sert à rien d'être dans l'anticipation. Là, il faut qu'on soit... faut qu'on donne toute notre énergie sur ce moment-là, parce que c'est vrai que si on réussit pas, il va falloir qu'on se réadapte et qu'on revoie les choses et que, ouais, que le chantier commence.
Ouais.
Mais d'un autre côté, si on y arrive, bah, ça peut être juste être incroyable, quoi.
Tu dis que le chantier commence. Tu penses que justement l'athlétisme français a aussi besoin d'une reconstruction ?
Ouais, je pense, très honnêtement. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire sur l'accompagnement, sur juste la stabilité, quoi. Parce qu'on ne gagne pas sa vie en étant athlète et ça pousse des athlètes à réfléchir vachement à leur reconversion, à ce qu'ils vont faire après, quoi. Donc. C'est créer tout un système de stabilité. En fait, la stabilité, c'est l'équilibre et la stabilité, c'est super important. Et actuellement, un athlète en France, avant qu'il ait une stabilité, c'est super difficile. Donc, la plupart des athlètes sont en fait instables. On a toujours un peu peur de pas boucler notre budget ou de pas. Il y a plein de problématiques qui arrivent. Et demander à une personne d'être championne olympique, de gérer à fond, alors qu'en fait, elle a une instabilité un peu dans sa tête. Elle peut pas être à 100% si elle sait que peut-être qu'il risque d'avoir un bug.
Ouais.
Et moi, j'essaye de me détacher totalement de ça en me disant que c'est pas grave. Au pire, je vais juste profiter avec ma famille, ou alors ils me recueilleront en pleurs et c'est pas grave, et ça va relancer quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est pas facile.
Est-ce que tu as le sentiment que finalement, les choses sont prises à l'envers ? C'est-à-dire qu'on vous demande de performer avant de pouvoir avoir une stabilité ?
Exactement ça. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir réussi à, sans énormément d'entraînement, sans une structure parfaite, à performer, à montrer en fait mes capacités. Parce que c'est ça qui fait que maintenant, je peux un peu plus m'exprimer, mais qu'est-ce que c'est dur de devoir prouver. Enfin, voilà quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prouve, il y a déjà une pression
simple,
d'un coup. Et en fait, les sponsors, ils viennent pas tout de suite, quoi. Enfin, c'est pas tout de suite comme ça, quoi. Ça se construit, ça. Ça vient petit à petit. Petit à petit, on acquiert de la légitimité petit à petit, et voilà quoi.
Un message aussi aux sponsors, investissez dans les athlètes, parce que c'est comme ça aussi que vous les ferez performer finalement.
Mais oui,
vous leur permettrez d'acquérir une stabilité qui pourra vous permettre de vous exprimer. C'est vrai que malheureusement j'ai le sentiment à l'heure actuelle que dans beaucoup de sports et en France, on prend un peu le problème à l'envers, quoi.
Le problème à l'envers, effectivement c'est compliqué.
Bon, allez, On va quand même finir sur une note positive, même si c'est globalement très positif aussi. Et je pense que ton parcours le montre. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça très intéressant de te donner la parole, parce que finalement, dans ton parcours, il y a énormément d'espoir. Et tu montres que malgré les difficultés, on peut y arriver.
Ouais.
Et on peut même, d'ailleurs, encore mieux y arriver que ce que tu pensais toi-même.
Ouais, c'est ça.
Au début, et surtout, c'est pas la fin non plus.
Non.
Alors, je veux dire, t'as encore plein d'autres choses
à vivre,
plein d'autres choses à prouver, à montrer, et plein de beaux souvenirs à te faire. Ça, j'ai retenu.
Des souvenirs.
et voilà. Et je trouve que c'est finalement aussi un beau message d'espoir. Et je trouve que pour faire avancer les choses, il faut aussi mettre en exergue ce qui va moins bien.
C'est ça.
Et pour faire progresser les choses de façon positive et pédagogique, presque,
ouais,
j'ai envie de dire.
Pédagogique, vraiment. Non, je pense que il y a beaucoup de choses à. Il y a forcément beaucoup de travail encore, mais en fait, si on veut vraiment, on peut. C'est bateau ce que je dis, mais en tout cas, je sais que chaque athlète a envie de performer et aller le plus loin possible. Moi, tout ce que je veux un peu plus mettre en avant, c'est vraiment la notion de s'écouter. Dès qu'on sent qu'avec avec le coach, il y a des choses qui vont pas, qu'on communique, mais ça va toujours pas. Faut pas attendre, en fait. Vous avez la capacité de créer vous aussi votre système qui sera bon, en fait. Parce qu'il y a aussi la notion d'aller chercher un coach qui va nous donner toutes les capacités pour être le meilleur. En fait, tu as la capacité de gérer, et t'as pas besoin d'être avec la personne ouais, la meilleure personne du monde, quoi.
Trouver la personne qui te correspond.
Qui te correspond, voilà. Et ouais, et je veux que tout le monde arrive à être à l'aise avec qui elle est, quoi.
Trop bien. Bon, dernière question, forcément. Le podcast s'appelle Championne du Monde. Quelle est ta définition de ce qu'est une championne?
Oui. Non, pour moi, en fait, c'est des choses que j'ai déjà dites pendant le podcast, mais pour moi, une championne du monde, c'est une personne qui arrive à être totalement alignée avec elle-même, qui se vit pleinement. Et en fait, qui fait que le jour J, il n'y a que son alignement et sa libre expression qui font qu'elle devienne championne du monde.
Qu'elle soit une championne, d'ailleurs.
Une championne.
Déjà, tout court, on n'a pas besoin d'être championne pour être une championne.
Du monde.
Enfin, championne tout court.
Championne tout court.
Championne,
oui.
Championne du bâtard, oui. Moi, c'est déjà hyper bien, non?
Vraiment.
Franchement, qu'est-ce qu'on veut d'être championne
non,
du monde?
Non, mais vraiment, voilà, c'est vraiment pouvoir s'exprimer au meilleur de son potentiel, quoi. Vraiment donner le meilleur et.
En alignement avec
vivre, soi-même. Ouais, se vivre pleinement, en fait. Pour moi, une championne, c'est la personne qui arrive le jour J à se vivre pleinement. Et qui dit le jour J à se vivre pleinement, dit tout le long de son processus, quoi.
Et même après.
Et même après, évidemment.
Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Hilary.
Merci à toi.
Merci pour ce récit. Cool. Merci d'avoir livré une petite partie de toi et ton parcours aussi. J'espère que ça en inspirera d'autres.
Ouais, j'espère aussi.
Et que ça donnera de la force, de l'énergie, de l'espoir, cas. Et ouais. Je trouve que ton parcours est très inspirant. Et on dit beaucoup le mot inspirant, mais en tout cas, je trouve que c'est vrai. C'en est la quintessence.
Merci beaucoup. Merci à toi, Cléo. Et vraiment, ça a été un plaisir. J'espère que j'ai été claire. Et voilà. Et là, pour l'instant, c'est la phase de ce que je vis actuellement. Tout est une question de processus. Donc, on est là pour apprendre et voilà.
Et on suivra ton parcours jusqu'à Paris.
Merci.
Et puis on suivra ça de très près. On te souhaite. Ça, c'est mes origines lorraines, faut pas m'en vouloir. On te souhaite le meilleur pour l'année à venir et pour après, bien évidemment, parce que ça ne s'arrête pas à Paris 2024.
Ça ne s'arrêtera pas.
Merci beaucoup, Hilary. Et je te dis à très vite.
À très vite. Bisous.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.